Vous écoutez Des femmes et un Dieu, le podcast où des femmes chrétiennes parlent de leurs expériences de foi. Depuis quelques mois, le féminisme est à la mode. Où que vous portiez les yeux, panneaux publicitaires, kiosques à journaux, rayons des librairies, il n'est question que d'écoféminisme, de féminin sacré, de femmes puissantes et d'itinéraires émouvants de femmes fortes et attachantes. Ou est-ce « mais attachantes » Ainsi, sur Netflix, tout ce que j'ai regardé ces derniers mois, puisqu'on ne va plus au théâtre ou au cinéma, film comme série, a un arrière-plan féministe de The Dig, où une femme s'oppose à des archéologues, masculins bien sûr, ayant pignon sur rue pour faire mettre au jour un site préhistorique sur sa propriété, à Moxie, où une jeune fille de 16 ans remet à l'honneur les luttes féministes de la génération de sa mère pour s'intégrer dans son lycée, en passant par la chronique des Bridgerton, au risque du feminism washing. Comme pour le greenwashing, les marques et les entreprises recycleraient des luttes réelles dans un but commercial et dans une logique de profit. Apparemment, c'est une tendance dont parlent les journaux sérieux, comme Le Monde, depuis 2018. Mais comme je vis dans une grotte, il m'a fallu attendre le numéro de mars de Livre Hebdo, la bible des libraires et des bibliothécaires qui scrute les tendances du monde éditorial. Tout un dossier y étudie, chiffre à l'appui, la hausse des publications féministes. Le thème est aujourd'hui porteur et sur l'année 2020, la publication d'ouvrages qui en traitent sous une forme ou sous une autre, fiction ou essai, livres grand public ou ouvrages universitaires, ont augmenté de 20%. Si ce courant est repéré depuis plusieurs années, il a bien connu une accélération décelable à l'œil nu, sans statistiques sophistiquées ces derniers mois. En résumé, aujourd'hui, le féminisme est la nouvelle écologie. Comme l'écologie, on le met à toutes les sauces, sauf que ça fait mieux dans une comédie romantique. Et comme pour l'écologie, on en parle beaucoup sans que cela se traduise dans des actes concrets et sans que cela transforme véritablement les pratiques et les produits proposés aux consommateurs. Enfin, essentiellement aux consommatrices en l'occurrence. Pas sûr en effet que cette version acidulée d'un féminisme pas plus menaçant qu'un bonbon lapis qui chante transforme profondément les structures des sociétés construites par et pour les hommes. Au contraire même, selon Isabelle Cambourakis, créatrice de la collection féministe Sorcières au sein de la maison d'édition Cambourakis, toujours dans le même livre hebdo de mars, le risque est bien réel d'amputer le mouvement féministe d'une partie de son identité et de ses forces vives. Comme elle le souligne, capitaliser sur une image de femme puissante, c'est aussi laisser de côté l'oppression et la dénonciation, et donc passer à côté du féminisme. Le feminism washing nie aussi la diversité des mouvements féministes et ne met en avant qu'un féminisme pour femmes blanches des classes bourgeoises. Revenons par exemple au cas de la chronique des Bridgerton, qui a fait grand bruit lors de sa diffusion sur Netflix en décembre 2020, notamment grâce à la diversité assumée de son casting. Comprendre, les acteurs ont été choisis sans tenir compte de la couleur de leur peau, et la reine d'Angleterre est donc jouée par une actrice métisse. La saison 1 de la série, qualifiée par Télérama de « croisement réussi entre Jane Austen et Gossip Girl », raconte l'entrée dans le monde de Daphne Bridgerton, dans l'Angleterre de la Régence, au tout début du XIXe siècle. Les scénaristes de la série, outre le casting inclusif, ont clairement infléchi la trame narrative de la série de romans de Julia Quinn sur laquelle ils s'appuient. Ils donnent un tour résolument féministe au personnage de la sœur de Daphné, Héloïse, qui aspire à l'écriture et au voyage, loin des rôles étriqués réservés aux femmes de la bonne société de l'époque. Même Daphné, dont le rêve suprême en bonne débutante est de faire un bon mariage, y va de son couplet sur la domination patriarcale face à son pas encore fiancé. Et pourtant, les mêmes auteurs n'hésitent pas à maintenir une autre part de l'intrigue des romans et à centrer toute la deuxième partie de la série autour de l'initiation sexuelle de la jeune Daphné par son prétendant et meilleur ami de son frère, Simon, le duc de Hastings. Cette partie de la série m'a, à vrai dire, bien plus interpellée que le casting dont tout le monde fait des gorges chaudes. Au fur et à mesure du visionnage, je me sentais de plus en plus mal à l'aise. Comment une série qui s'affiche à la pointe de la lutte contre le racisme et met dans la bouche de ses héroïnes des propos féministes peut-elle proposer simultanément une vision aussi archaïque de la sexualité féminine? Daphné en sait assez pour se plaindre de l'oppression des femmes à Simon, mais ignore tout du sexe. Et qu'on ne vienne pas ici me parler de vraisemblance historique, car la série n'en est pas à un anachronisme près quand cela arrange ses scénaristes. Les revendications d'Héloïse et de Daphné ne sont-elles pas elles-mêmes anachroniques? Donc, la pauvre innocente découvre son propre corps par le regard et les paroles d'un homme, et son plaisir dépend entièrement du bon vouloir de son partenaire. Les scènes de sexe s'étendent à loisir sur des ébats centrés sur la pénétration et sur le plaisir masculin, bref, sur une conception tout sauf féministe de la sexualité hétérosexuelle. Comme pour la bande-son, où l'on reconnaît sous l'orchestration classique des tubes de Coldplay ou de Taylor Swift, le féminisme des Bridgerton en particulier et de Netflix en général est pop léger et sucré. Il apporte la dose de bonne conscience contemporaine qui fait un bon divertissement, mais ne remettra pas réellement en question nos représentations du monde façonnées par le patriarcat. Peut-être contribuera-t-il en revanche à initier une prise de conscience plus profonde chez certains de ses spectateurs et spectatrices. Comme féministe convaincue et animatrice de ce podcast depuis presque 2 ans, j'avoue que je suis partagée à l'idée que le féminisme, ou en tout cas une certaine version du féminisme, soit désormais à la mode. Je suis heureuse que l'attention du public soit éveillée sur ces sujets. Je me réjouis tout particulièrement que soit mis en valeur le rôle des femmes dans l'histoire, de la préhistoire à nos jours, et que soient promus des itinéraires de femmes dans leur diversité. Après tout, c'est ce que j'essaye moi aussi de faire avec des femmes et un dieu, aussi bien dans les entretiens que dans les chroniques. Comme pour l'écologie cependant, il me semble que nous devons dans ce contexte être très vigilantes sur l'utilisation de nos convictions à des fins mercantiles. Ce n'est pas parce qu'on ajoute des femmes et qu'on mélange, selon l'expression de l'économiste féministe Sandra Harding, que les choses vont changer. Des changements de mentalité et de société profonds sont nécessaires pour que soit reconnue et rendue effective la pleine égalité des femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie, qu'elle soit domestique ou sociale. Nous ne devons pas nous contenter de moins et nous laisser persuader que quelques jolis slogans dans des pubs pour aspirateurs ou pour chaussures suffisent. Dans les fonctions que j'assure pour l'organisation du congrès du MCC et dans la production de la saison 3 de ce podcast, il m'arrive de m'interroger. Serais-je la caution féministe d'un discours par ailleurs inchangé dans ce domaine? Autrement dit, est-ce que je suis l'agent du feminism washing pour le MCC? J'ai bien réfléchi en préparant cette chronique et je ne crois pas que ce soit le cas. Dans le mouvement comme dans les commissions engagées dans l'organisation du congrès, nous ne sommes pas tous et toutes d'accord sur ce qu'est le féminisme, mais nous partageons, je pense, la conviction que les femmes ont un rôle à jouer en entreprise, en église et dans le mouvement. J'essaie de promouvoir avec ce podcast et dans mes propositions de contenu, comme la future conférence débat autour du féminin, mais aussi dans nos façons d'interagir en équipe, une vision féministe, et je suis toujours écoutée avec bienveillance et mes propositions encouragées. La meilleure raison toutefois de penser que le MCC n'a aucun intérêt à faire du feminism washing réside dans sa nature même. C'est un mouvement d'église et dans l'église, le féminisme n'a pas bonne presse, bien au contraire. Rassurons-nous en effet, s'il y a bien un milieu où le feminism washing ne risque pas de s'installer, c'est bien l'église catholique. Non, chez les cathos, on en est encore au bon vieux « je ne suis pas féministe, mais » ou au « elle dit des choses intéressantes, mais elle est quand même beaucoup dans la revendication, non ?» C'est qu'au sein de l'église, le féminisme libéral qui prône le droit au divorce, la limitation des naissances, l'organisation individualiste de la vie et la licence sous toutes ses formes, comme le dirait Sœur Marie Guérin-Lajoie, en 1932, fait poindre l'ombre de la théorie du genre, la désagrégation de la famille et autres monstruosités qui nous guettent si les femmes s'avisaient de sortir de leur rôle d'épouse et de mère. En tout cas, feminism washing ou feminism bashing, dans le monde profane comme dans l'église, le patriarcat a encore de beaux jours devant lui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je serais heureuse d'avoir vos avis, réactions et commentaires sur la page Facebook Des Femmes et un Dieu ou à l'adresse mail desfemmesetundieu@vivaldi.net.